Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 14 mai 1948, la création de l'État d'Israël. Né à Budapest le 2 mai 1860, le journaliste Theodor Herzl publie en 1896 un essai intitulé « L'État des Juifs, tentative de solution moderne à la question juive » qui apporte une contribution essentielle au sionisme politique. Il affirme, je le cite, « Je considère la question juive comme n'étant ni religieuse ni sociale, mais bien nationale. Pour la résoudre, il faut d'abord la poser en termes politiques, au niveau international. Une solution pourra alors être trouvée dans le cadre du Conseil des peuples civilisés. Nous sommes un peuple un. » Herzl consacre toute son énergie à favoriser la création d'un État pour les Juifs. Un premier congrès sioniste se réunit à Bâle du 29 au 31 août 1897. Une organisation sioniste est créée. Elle est dirigée par un bureau exécutif de 23 membres. Elle se dote d'un drapeau aux couleurs bleues et blanches avec l'étoile de David et d'un hymne. La Banque coloniale juive est instaurée en 1899. Diminué par de graves troubles cardiaques, Herzl décède le 3 juillet 1904. L'année suivante, la proposition formulée par la Grande-Bretagne de céder à l'organisation sioniste des terres en Ouganda est rejetée. L'homme d'affaires lituanien David Volson préside désormais l'exécutif sioniste dont le secrétariat général est assumé par l'écrivain polonais Naoum Sokolov. L'émigration juive vers Israël s'intensifie. En une décennie, 40 000 pionniers accomplissent leur alia. D'origine polonaise, David Grun, qui deviendra David Ben Gurion, appartient à ce courant qui rêve de façonner un nouveau juif. Il considère que réaliser le sionisme n'est rien d'autre que réaliser une profonde mutation historique du peuple hébreu. Celle-ci ne se limite pas à son aspect géographique, au mouvement des masses juives depuis la diaspora jusqu'à la patrie renaissante. Elle comprend aussi une transformation socio-économique. Elle signifie prendre les masses juives déracinées, appauvries, stériles, pour les introduire dans une vie créatrice et productive, les installer sur leurs terres, les intégrer dans la production agricole, industrielle et artisanale, afin de les rendre économiquement indépendantes. Le sionisme est par essence un mouvement révolutionnaire. En 1906, l'Association des bâtisseurs fonde à proximité de Jaffa une ville juive appelée Tel Aviv, la colline du printemps. 2 ans plus tard, une ferme-école voit le jour à Sedgera. Il s'agit de la première tentative d'autogestion au sein d'une entreprise agricole. Voté en 1913, le projet d'une université hébraïque à Jérusalem se concrétise en 1925. La Première Guerre mondiale fragilise la position des Juifs établis en Palestine sous administration de l'Empire ottoman. En effet, ceux venus de Russie sont considérés comme des ressortissants d'un pays hostile. En décembre 1914, 700 Juifs russes sont arrêtés et embarqués dans des bateaux qui les conduisent en Égypte. Ceux qui demeurent en Palestine voient leur liberté restreinte. Les subsides de la diaspora arrivent difficilement. Les mauvaises récoltes engendrent une disette aggravée par le blocus de la Méditerranée par les marines alliées qui isolent la Palestine du reste du monde. Les épidémies se multiplient. La population juive passe de 80 000 à 56 000 habitants entre 1914 et 1918. Dans ce contexte difficile, Arthur James Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, adresse le 2 novembre 1917 une lettre à Lord Lionel Walter Rothschild, dans laquelle il affirme que le gouvernement de Sa Majesté envisage, je le cite, favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non-juives existant en Palestine, ni aux droits, ni au statut politique dont les Juifs jouissent dans tous les autres pays. Cette déclaration conforte l'espoir des partisans du sionisme. Le 8 décembre, l'entrée à Jérusalem par la porte de Jaffa d'un corps expéditionnaire britannique commandé par le général Edmund Allenby est accueillie avec joie par les Juifs de Palestine. Cependant, l'opposition nationaliste arabe se cristallise contre le projet sioniste. En février 1919, une délégation sioniste est reçue à Paris par les principaux États participant à la conférence de la paix, chargé de préparer le traité de Versailles. Elle présente un mémorandum qui rappelle ses revendications. Développement des implantations juives, création d'un conseil juif en Palestine et reconstitution d'un foyer national juif en Israël. Le mouvement sioniste est ainsi reconnu de facto par la communauté internationale. Le 24 avril 1920, la conférence de San Remo confie à la Grande-Bretagne un mandat sur la Palestine. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, près de 35 000 Juifs accomplissent leur alia. Ils sont pour la plupart de nationalité russe et proches des idéaux sionistes. Ils fuient les massacres perpétrés en Russie par les armées blanches durant la guerre civile qui suit la révolution bolchevique. Cette vague d'émigration est favorisée par l'agence juive. Elle est complétée par l'arrivée de nombreux juifs polonais. Ces nouveaux immigrants contribuent à la mise en valeur de la terre d'Israël sous l'impulsion de la Légion du Travail fondée en 1920. Les kibboutz se développent. Des routes sont construites, des entreprises sont créées. La population de Tel Aviv connaît une forte croissance. Elle passe de 16 000 à 40 000 habitants entre 1923 et 1926. Les autorités britanniques ne peuvent empêcher les émeutes anti-juives qui surviennent le 1er mai 1921 à Jaffa. Le grand moufti de Jérusalem, Al-Hajj Amin el-Husseini, excite la population musulmane à propos des conditions d'accès aux lieux saints. Le 23 août 1929, la cité sainte est en proie à de violents troubles. Le lendemain, les juifs établis à Hébron sont massacrés. Quelques jours plus tard, les quartiers juifs de Safed en Haute-Galilée sont attaqués. Plusieurs communautés agricoles sont également saccagées. Confrontés aux menées des Arabes, les Juifs organisent leur sécurité. L'accession du parti nazi au pouvoir en Allemagne change la donne. Dès 1933, un accord est conclu entre le Troisième Reich et l'exécutif sioniste. Il prévoit que les Juifs désireux de quitter l'Allemagne peuvent emporter en Palestine une partie de leurs capitaux. Ainsi, près de 20 000 juifs allemands effectuent leur alia. Ils appartiennent pour la plupart à la bourgeoisie. Cette politique est loin de faire l'unanimité parmi les dirigeants sionistes. Certains dénoncent un dangereux pacte avec le diable. La croissance de la population juive favorise la radicalisation des Arabes. La Galilée s'embrase. Les implantations juives sont attaquées. Des manifestations sont organisées à Jaffa, Naplouse, Haïfa et Jérusalem, où de nouveaux quartiers sortent de terre pour loger les juifs d'origine germanique. Les violences font plus de 300 victimes. Le 19 avril 1936 débute la grande révolte arabe. Elle est portée par le Haut Comité arabe constitué à Naplouse le 25 avril sous la présidence du grand moufti de Jérusalem. Il exprime trois revendications. L'arrêt de l'immigration juive, l'interdiction de vendre des terres à des juifs et l'instauration d'un gouvernement de représentation nationale. En réaction, l'Irgun, organisation militaire juive, mène des actions terroristes qui frappent la population arabe. Pour dénouer la situation, les Britanniques envisagent la partition du territoire palestinien tout en conservant l'administration directe du secteur de Jérusalem. Cette solution s'avère inapplicable. Aussi, le 17 mai 1939, Londres publie un livre blanc qui prévoit dans le délai d'une décennie la constitution d'un État palestinien unique et stipule la limitation à 75 000 le nombre des arrivants juifs pour les 5 prochaines années, à savoir 10 000 par an et 25 000 visas accordés à titre exceptionnel pour des réfugiés. Au-delà de cette période transitoire, elle sera soumise à l'approbation des autorités arabes. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ménagent les Arabes pour éviter qu'ils soutiennent l'Allemagne. Pour ne pas affaiblir la lutte contre les nazis, la Haganah, force militaire sioniste, et en particulier son bataillon d'élite, le Palmar, ainsi que l'Irgun, interrompent leur action contre les soldats britanniques établis en Palestine. Seul le groupe Stern, fraction extrémiste de l'Irgun, poursuit son harcèlement. Lors de la conférence de Baltimore, réunie à New York du 6 au 11 mai 1942, les dirigeants sionistes revendiquent la création, je cite, d'une communauté politique juive intégrée dans l'organisation du nouveau monde démocratique. Tout en réaffirmant leur opposition radicale aux contraintes imposées par le livre blanc britannique, ils demandent que les Juifs de Palestine puissent contribuer à l'effort de guerre en combattant sous leur propre drapeau au sein d'une force militaire juive. Au début de l'année 1944, l'Irgun, commandé par Menachem Begin, reprend ses opérations de déstabilisation des troupes britanniques en Palestine malgré l'opposition de la Haganah et de David Ben-Gurion. Des convois militaires sont attaqués, des voies ferrées et des ponts sont dynamités. Au lendemain de la Shoah, l'immigration juive s'intensifie. Elle est sévèrement réprimée. La plupart des immigrés illégaux sont internés dans des camps à Chypre. Le 10 juillet 1947, un navire battant pavillon hondurien, le président Warfield, bientôt rebaptisé Exodus, quitte le port de Sète avec à son bord près de 4500 juifs décidés à s'établir en Palestine. En mer, l'équipage hisse le drapeau sioniste. Le 18 juillet, il est arraisonné par 5 bâtiments de la Royal Navy et éperonné par un destroyer qui fait 2 morts et une centaine de blessés. Les passagers sont débarqués à Haïfa et réembarqués sur 3 bateaux-cages qui arrivent à Hambourg le 9 septembre après une escale à Port-de-Bouc. Cette affaire a un retentissement considérable, l'émotion est vive. En Palestine, les Juifs s'arment grâce aux négociations menées par Golda Meir. Des camps d'entraînement militaire voient le jour, notamment en France. Confrontée à une impasse politique, la Haganah est déterminée. Le 22 juillet 1946, à Jérusalem, l'explosion de l'hôtel King David, siège de l'état-major britannique, fait 91 morts et 46 blessés. Le coup est rude. Le président américain Harry Truman incite Londres à la modération. Le 15 mai 1947, l'Organisation des Nations Unies propose de mettre un terme au mandat britannique et au partage de la Palestine en 2 États indépendants. L'un arabe, l'autre juif. Jérusalem étant placée sous tutelle internationale. Le projet de partage est adopté le 29 novembre. Des manifestations de joie éclate à Tel Aviv, à Haïfa et dans les quartiers juifs de Jérusalem. Le 14 mai 1948, à la veille de la fin du mandat, les derniers soldats britanniques quittent la Palestine. à Tel Aviv le jour même à 16h dans un immeuble du boulevard Rothschild sous le portrait de Theodor Herzl et devant 200 personnes, David Ben-Gurion proclame la création d'Israël. Il en devient le premier ministre. Le lendemain, l'Égypte, la Syrie, la Transjordanie, le Liban et l'Irak lancent leurs troupes à l'assaut de l'État juif. En janvier 1949, au terme de la guerre d'indépendance, Israël victorieux augmente sa superficie de 6000 km². Son territoire est désormais géographiquement cohérent. Gaza est placée sous administration militaire égyptienne. L'année suivante, la Cisjordanie est annexée au royaume de Jordanie.